Alors, bienvenue à notre je dis oui pour ce soir. Merci d'avoir dit oui malgré le froid et que vous n'êtes pas qu'à contact comme la quasi moitié de la France. Donc le thème de ce soir, c'est Seigneur, donne-moi la patience et tout de suite. Donc comment gagner dans la patience? Je crois que dans le presque bon, une grande majorité de messes de mariage que je célébrais, le premier lecture, c'est quasiment toujours le même, la première lecture. Vous savez lequel? Et si je fais un sondage, je suis sûr que la moitié de vous a pris cette lecture pour le jour de votre mariage. C'est Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Ça vous dit quelque chose? Mais oui. Voilà, c'est l'hymne à l'amour ou à la charité de Saint Paul. Et vous avez remarqué, j'imagine, que de tous les synonymes que Saint Paul met pour l'amour, qu'est-ce qu'il met en premier? Sur l'inspiration de l'Esprit-Saint, l'amour est patient. Donc, ça veut dire que la patience devient la première mesure de mon amour. Quelque part, je veux dire, j'aime à la mesure que je suis patient. Alors, pour certains, vous allez dire, zut alors. Alors, qu'est-ce que c'est la patience? Alors, comme beaucoup de mots en français, vient du latin, donc patientia, qui vient elle-même de mot pour souffrir, patire. Et donc, la patience, on peut définir comme notre capacité de supporter l'épreuve. Endurer dans une difficulté. Persévérer dans l'amour. Ça, c'est la patience. Est-ce que Jésus était patient? Bien sûr que oui. Quand tu regardes sur... On ne le voit pas. Mais quand tu regardes sur la croix, pendant toute sa passion, il est en train de pâtir, il est en train de souffrir. Une souffrance qu'il acceptait par amour pour nous sauver. Jésus supporte toutes les douleurs, toutes les difficultés, toutes les injures même, avec patience, sans maudire qui que ce soit, ni ses bourreaux, ni les gens qui l'injurent. Il reste muet, patient. Il supporte l'épreuve qui lui est donnée. Mais aussi, dans sa vie, il était mis à l'épreuve. Pas seulement l'épreuve extrême de son amour, de sa patience, pendant sa passion, mais vous vous souvenez de l'épisode où Jésus monte à Mont-Tabor. Transfiguration, moment de grâce pour tout le monde, avec Pierre et Jean et Jacques. Il descend dans la vallée et il se retrouve, monsieur, qui a un fils qui est possédé. Et qui dit, est-ce que vous me faites quelque chose parce que je demande à vos disciples de l'expulser du démon et qu'ils n'arrivent pas. Et Jésus se fâche à ses apôtres et dit, « Jusque quand dois-je vous supporter ?» Autrement dit, vous êtes insupportable. Et c'est Jésus. Donc, l'impatience, ce n'est pas ne jamais sentir la frustration ou d'être déçu par le comportement des autres. Mais le fait que il est mis dans cet état par l'attitude de ses apôtres, mais il ne passe pas à l'action de le renvoyer, de les insupporter, même s'ils sont insupportables. Il ne le renvoie pas. Il dit, vous êtes tellement pénible, mais va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je ne vous supporte plus. Parce que si je dis, je ne vous supporte plus, ça veut dire que je ne vous aime plus. Et Jésus est amour. Et la patience supporte tout. C'est l'autre définition que Saint Paul donne dans la première lettre aux Corinthiens. L'amour supporte tout. Jésus, fâché avec ses apôtres, il le reprend. Il ne se sépare pas de eux. Et en plus, il ne dit pas des mots blessants ou cassants pour manifester sa déception. Il le garde dans son amour. Ils sont éprouvants, mais ils résistent les tentations de ne plus le supporter. Il persévère. Il le fait, bien sûr, de reproches, mais il ne cherche pas à le blesser ou le casser. Ou l'humilier, en passant. Il le fait afin qu'il se rende compte de le mal ou de leurs erreurs et qu'il puisse améliorer. Donc il n'y a aucun esprit de vengeance en Jésus, parce que son cœur est pur. Il n'est pas amené à la frustration, mais il ne renonce pas un instant sa mission de les supporter, de les aimer. Donc, si je prends Jésus comme exemple, c'est quoi les clés de la patience? Si vous avez envie d'être encore plus patient, c'est quoi les clés? Mais les clés, c'est d'être comme Jésus. Alors, vous dites, mais ça c'est facile à dire. Mais en fait, le fait que Jésus n'a pas de défaut, il est capable de supporter les nôtres. Est-ce que vous avez jamais remarqué que très souvent, là où je suis le plus impatient, c'est souvent là où j'ai du mal à supporter chez les autres, sont les choses que sont mes propres défauts. Les choses que j'aime pas en moi-même, et quand je le vois dans l'autre, ça provoque en moi davantage d'impatience. Oh, c'est que moi qui fais ça, je sais pas. J'espère pas. Si je suis paresseux, si mon défaut c'est la paresse, je supporte mal rencontrer la paresse chez mes enfants. Et je le gronde. Parce que moi-même, je l'ai en moi. Ça provoque en moi encore davantage d'impatience. Si je suis gourmand, pareil. Si je suis têtu, je supporte mal l'entêtement de mon mari ou ma femme. Mais moi-même, je suis têtu. Si je suis vaniteux, etc., etc. La patience, alors, viendra quand je travaille ces lieux-là. C'est mes propres défauts si je travaille ces lieux-là. C'est là où je peux devenir plus patient avec les autres. Et peut-être le premier pas à avoir la patience envers les autres, c'est d'avoir la patience envers moi-même. D'avoir un regard de bienveillance et de compassion plus en moi-même. Et ça aide à avoir mon cœur plus en paix. Et le plus que je gagne en vertu dans tous les autres lieux, je deviens davantage comme le Christ. Et je supporte plus facilement les erreurs, les difficultés chez les autres, les choses qui me frustrent, qui sont pourtant là, mais qui ne provoquent pas une telle réaction si forte. Il y a d'autres choses qui provoquent l'impatience. Je peux être très ponctuel et que je insupporte d'être en retard. Ça, c'est une vertu, n'est-ce pas? Mais quand tu nous mets en retard, ça me gonfle. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait être à l'heure, etc. Mais là, je vous invite à analyser pourquoi ça te met dans une telle colère, une telle impatience. C'est quoi l'enjeu, en fait? Pourquoi tu veux être à l'heure? Ou, autrement dit, pourquoi tu veux éviter d'être en retard? Tu peut-être vas dire, mais être en retard, c'est un manque de respect pour l'autre qui m'attend. Mais si j'analyse encore plus profondément, peut-être parce que j'ai aussi peur de ce que l'autre va penser de moi si je suis en retard. Là, l'enjeu, c'est le regard de l'autre. Et j'ai peur que l'autre me regarde mal. Donc, je fais tout pour être à l'heure, pour éviter cela. Et quand tu nous mets en retard, c'est quoi l'enjeu? Que l'autre va penser mal de moi et c'est ta faute. Et là, je dois poser la question, pourquoi j'attache une telle importance à ça? Pourquoi j'attache une telle importance à le regard de l'autre? Pourquoi j'ai une si grande peur de décevoir ou de ne pas être à l'auteur des attentes de l'autre, de ce qu'ils diront de moi? Est-ce que Jésus a peur de ce que l'autre pense de lui? Pas du tout. Il sait qui il est. Il connaît. Et même s'il est mal compris, ils comprendront peut-être plus tard. Mais ça ne change rien. Et alors, pourquoi je projette sur eux une telle incapacité de comprendre si je suis en retard? Ils comprendront. Mais si je m'attache une telle importance à cela, tu vois, c'est une exagération. Et cet attachement qui est désordonné provoque en moi un désordre et qui a lieu pour impatience après. Je sais que ce n'est pas bien d'être en retard. Mais si mon cœur était détaché de ses peurs, j'ai un cœur plus stable, moins anxieux, je serais plus en mesure de supporter tes retards. Je connais un prêtre qui avait marié un prêtre allemand qui a marié un monsieur allemand avec une Mexicaine. Et vous voyez où je vais aller. Il raconte, ce monsieur, que les choses n'allaient pas très bien avec sa femme parce que le premier voyage qu'ils ont fait au Mexique, lui, voilà, il veut être toujours à l'heure parce que les Allemands, ils sont toujours à l'heure. Et donc, ils sont invités chez des gens, des amis d'elle. Il dit à quelle heure 7h30 pour le dîner. Très bien. Donc lui, il calcule combien de temps ça va prendre pour arriver. Donc il est déjà prêt, trois quarts d'heure avant, voilà, pour être sûr d'être à l'heure. Et elle dit, mais t'inquiète pas. Il dit, non, mais on va être en retard. Mais elle l'oblige de prendre sa douche, de se préparer, de se dépêcher. Il est vraiment hors de lui-même parce qu'il voit l'heure tourner. Il sait, on va être en retard. Il dit, elle dit, mais t'inquiète pas, on est au Mexique. Ah non, 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 l'heure, c'est l'heure, voilà. Et donc, finalement, ils arrivent, ils se dépêchent, ils conduisent comme un malade pour arriver là. Il est très fâché parce qu'il arrive à 7h40. Et donc, il sonne à la porte à 7h40. Il s'ouvre la porte, c'est le monsieur qui l'a invité, en short, et il tongue. Ah, bonsoir. Sa femme, voilà, il n'a même pas pris sa douche, etc. Et donc, il patiente dans le salon. Et le monsieur essaie de se couper d'eux, mais il n'a rien préparé pour le dîner, etc. Et voilà. Et le premier invité commence à arriver vers 9h. Il dit, mais quel pays? L'heure, c'est l'heure. Donc, il raconte qu'il a... Le deuxième voyage qu'ils ont fait au Mexique. Et donc, ils sont tout prêts, etc. Et juste avant de claquer la porte, il dit, « Ah, j'oublie un truc. » Il enlève sa montre, il laisse à l'intérieur de l'appartement, et dit, il claque la porte, et dit, « Allons au Mexique. » Il dit, « Le deuxième voyage, c'était génial. Je te laisse me dire quand il faut aller. » Je te suivrai. Donc, on peut améliorer notre impatience. Deuxième lieu où je peux améliorer, au lieu de réflexion. ce sont les attentes que je projette sur les autres, ou que j'attache aux autres, ce que j'attends des autres. Si tu définis une bonne journée, c'est quoi une bonne journée? Je pose ces questions à quelqu'un cette semaine, et devient une journée où tout va bien. Autrement dit, il n'y a pas des ennuis. Mais qui te dit que c'est une bonne définition, ça? Qui te dit que sa journée doit être une journée sans problème ou sans difficulté? Parce que si tu poses ça comme base, ben, tu vas être souvent déçu. Parce qu'il y a toujours un truc. Et la personne qui interrompt ou qui fait quelque chose, qui est planifié, te préparé, voilà, frustre, mais je suis très impatient. Frustré. C'est comme l'infirmière qui dit ben, je vais à l'hôpital et j'espère que je ne vais pas embêter par des malades. Mais si je considère que ma journée est remplie de gens malades et que ma mission c'est de les aimer, de les supporter, quand ces choses arrivent, je l'accueille avec une autre disposition, n'est-ce pas? Parce que mes attentes, surtout quand les petites attentes qui sont subtiles, mais qui deviennent des exigences. Et il faut que l'autre fasse ça. J'attends, et en plus, si je mets assez bas l'exigence, on dit, mais c'est très vertueux de ma part, parce que je ne demande pas le ciel et la terre. Hein. Mais je demande juste ça. En fait, c'est très subtil. Mais le fait que je m'attache tellement d'importance à ces trucs-là, et quand l'autre ne donne pas, alors là, encore plus fort, mon impatience. Ma frustration, c'est quand même, je demande que ça. Mais pourquoi tu attaches ton cœur à ça? Qui te dit qu'il faut attacher ton cœur à ça? C'est pas le Christ. Mais très souvent, c'est ce qui se passe dans notre intérieur. Donc attention à nos attentes. De ne pas attacher ou laisser notre cœur s'attacher à ces choses-là. Jésus, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune attente sur personne ou qu'on mette le bas à zéro. Et aucune exigence. Est-ce que Jésus veut qu'on soit vertueux? Bien sûr. Mais il sait de quoi nous sommes pétris. Il sait le pas que nous sommes capables de faire avec sa grâce. Et d'autres que pas encore. Mais il est patient. Il est persévérant. Il va continuer à envoyer ses grâces pour nous supporter, pour nous aider, afin qu'on puisse un jour faire ce pas qu'aujourd'hui me semble ou est trop difficile. Ça, c'est la patience. Qui est liée, comme ça, à l'espérance. C'est bien qu'il n'est pas encore là, mais je le crois qu'il viendra. Donc, la patience liée à l'amour, c'est l'amour qui est le plus fort. Si je veux être plus patient, il faut que je décide d'aimer au-delà de ce qui est raisonnable, au-delà de ce que j'attends de l'autre de retour, tel comme le Christ le fait. Donc la patience devient comme ça une des vertus les plus puissantes qu'on peut avoir, qui est capable de dilater le cœur des autres, de changer le cœur des autres. Ça ne veut pas que je ne fais aucune reproche, que je ne suis pas déçu par le comportement de l'autre. Mais ce qui provoque en moi comme retour, c'est un excès d'amour, de bien, de supporter l'autre. Et en le faisant, je deviens plus patient. Il y a des amis dans une autre ville, il y a quelques années, ça date de cette histoire, et qui me raconte qu'une de leurs filles, 16 ans je crois, où elle avait 15 ans, et qu'elle est devenue insupportable. crise d'adolescence, tout est nul, vous avez le pied parent sur le face de la terre, on essaie de parler avec elle, hein, voilà. Donc, que de reproches, etc. Et à un moment donné, les parents, ils ont du mal à supporter cet ado qui est quand même, se fait un peu détestable quand même. Ils sont dans le lit en train de parler d'elle en disant « qu'est-ce qu'on va faire avec elle ?» Et lui dit, il a pensé que dans 15 jours, c'est son anniversaire, c'est 16 ans. Oh, elle dit, ah mais, autre question qu'on fait quelque chose pour elle. Hein. Ah non mais, tel comme il nous traite, c'est juste impossible. Il ne mérite rien. Et oui, c'est d'accord. Ouais. Donc, alors, le jour de son anniversaire, on ne fait rien. Et comme ça, on va comprendre, non? Qu'on est tellement fâché avec elle, qu'il doit changer de façon de faire. Voilà. Les jours passent. Et le mari dit, un soir au lit, il dit, chérie, j'ai une idée, mais un peu folle. Tu sais, notre Mélisse, il est insupportable. Mais ici, on faisait une énorme fête pour elle, pour ses 16 ans. Mais plus grand qu'on n'a jamais fait. On invite tous ses copains, tous ses amis, on fait une fête surprise pour elle. Mais il dit, mais elle ne mérite pas. Mais le plus qu'ils ont parlé, ils pensaient, ils disaient, allons-y, on va à l'encontre de ce qu'elle nous, de comment elle nous traite. Donc ils invitent à son insu tous ses copains, etc., etc. Donc une grande fête, je vois une soixantaine de personnes chez elle, chez eux. Donc le jour J arrive, elle ouvre le porte. Bonsoir chérie, comment ça va? Comme d'habitude, ah ben d'accord. Et il ouvre le porte du salon et tous ses amis. Surprise! Alors, très étonné, il dit, mais il va voir ses copains. Mais qui a organisé ça? C'est toi, Bruno? Non, non, c'était pas moi. C'était toi, Estelle? Non, non, c'est pas moi. Et à la fin, ils se rendent compte, en fait, ce sont ses parents qui l'ont organisé. Donc, elle passe une super soirée. Il fait 11h, 11h30. Un petit frappe à la porte. Entrez. Et donc, maman, papa, merci. Elle fond dans l'âme. Il dit, je sais que j'étais insupportable. Merci. Ça, c'est la patience. Qui supporte tout, mais qui est capable de changer le cœur les uns des autres. Mais ça, cela commence d'abord avec le changement de notre propre cœur. Donc, pour finir, je vous donne des questions. Monsieur scribe, tu sais, les scribes se sentent pas trop bien dans l'évangile, mais mais les scribes, voilà, nouveau scribe, c'est très bien. Donc le premier, c'est une question pour réfléchir ensemble. Et je vous pose la question. Pourquoi les aveugles suscitent en nous la compassion et les sourds suscite en nous l'impatience? Et je vous invite à analyser ça ensemble. Pourquoi les aveugles suscitent en nous la compassion et les sourds l'impatience? C'est juste, bah, je vous laisse réfléchir ensemble, mais c'est un sens comme l'autre. La vue ou l'ouïe, c'est un sens. Voilà, première question. Et deuxième, c'est qu'est-ce qui favorisera une augmentation de patience chez moi? Si vous voulez partager là-dessus. Ok? Je vous laisse. 15 minutes. Jusqu'à 32. Ok? Allez, je vous laisse en vos groupes. Thank you.